Bonjour. Nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et notre grand Dieu poursuit un plan. Dieu a un projet pour ce monde, pour notre pays, pour notre ville, pour notre entourage, pour nous-mêmes. Et parce que nous sommes ses serviteurs, nous qui avons placé notre foi en Jésus, Dieu peut justement nous charger d'accomplir pour lui une mission. Et oui, bien que notre Dieu soit tout puissant, bien que notre Dieu n'ait besoin de personne, et donc que notre Dieu n'ait pas besoin de nous, notre Dieu, dans bien des cas, se sert pourtant de nous, ses serviteurs, pour accomplir son plan. Et par un moyen ou un autre, Dieu nous fait comprendre qu'il nous charge d'une mission. Dieu nous dit « Je te demande de faire ceci pour moi. Vas-y. » N'est-ce pas? Nous avons parfois la conviction que Dieu nous demande quelque chose de précis. D'aller trouver une personne, de dire ou de faire quelque chose. On entend Dieu qui nous dit « Vas-y, c'est ce que j'attends de toi. » Mais face à cette mission que Dieu nous confie, nous pouvons nous sentir dépassés, incapables d'accomplir cela. La mission est trop difficile pour nous. Nous n'avons pas les capacités ou les forces suffisantes pour réussir. Et nous nous disons, je suis trop petit, je suis trop vieux, je suis trop faible pour faire cela. Avec quoi pourrais-je réussir? Je ne dispose pas des moyens nécessaires. Humainement, nous pensons que pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée, nous devons attendre de disposer de tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette mission. Il y a là de la sagesse. Cette mission est importante. Nous ne devons donc pas échouer. Et donc, il nous faut réunir le maximum de moyens afin d'être certains de réussir. Mais derrière cette sagesse apparente, il y a aussi autre chose. Bien souvent, c'est la peur. La peur d'échouer. Et cette peur d'échouer est liée à une mauvaise connaissance que nous avons de notre Dieu et aussi à une mauvaise connaissance de la compréhension des buts que Dieu poursuit lorsqu'il nous confie une mission. Si jamais Dieu nous confie une mission, ce n'est pas juste parce qu'il a besoin de nous. Selon Luc 17:10, nous sommes tous des serviteurs inutiles. Dieu est tout puissant et Dieu n'a pas besoin de nos forces ou de nos capacités. Dieu ne nous confie pas une mission parce qu'il a besoin de nous, mais Dieu nous confie une mission parce qu'au travers de cette mission, Dieu veut manifester à nos yeux, mais aussi aux yeux des autres, qui il est vraiment. Un Dieu puissant sur qui nous pouvons nous appuyer. Un Dieu agissant sur lequel nous pouvons compter. Un Dieu fidèle en qui nous pouvons avoir confiance. Si Dieu nous confie personnellement une mission, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de compter sur nous, mais parce que Dieu veut nous montrer que nous pouvons compter sur lui. Le titre de la prédication de ce matin est « Nous sommes peut-être petits, mais nous pouvons compter sur un grand Dieu ». Et pour mettre cela en lumière, je vous propose de lire l'histoire de Gédéon, histoire qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 6. Alors le texte biblique ne donne pas de date exacte, mais très approximativement, en faisant quelques recoupements, nous pouvons situer la naissance de Gédéon 100 ou 150 ans après que le peuple de Dieu, le peuple hébreu, soit entré dans le pays de Canaan. Après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué pour être le chef du peuple et pour conduire ce peuple dans la conquête de la terre promise. Terre promise qui porte bien son nom, puisque Dieu avait justement promis de donner ce pays à son peuple. Mais pour cela, il va falloir que le peuple ose accomplir sa mission, combattre les ennemis de Dieu. Immédiatement après l'entrée dans ce beau pays, quelques zones ont été conquises sous l'impulsion de Josué et de quelques hommes courageux. Et à chaque fois, Dieu leur donnait la victoire. Mais au fil du temps, le peuple a commencé à s'éloigner de Dieu et à avoir peur de ses ennemis et à refuser le combat. Je commence ma lecture au verset 1, Juges 6, verset 1. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc là, le cadre est posé. Les Israélites se sont détournés de Dieu, et puisque les Israélites ont refusé de se placer entre les mains de leur Dieu, eh bien, Dieu les laisse entre les mains d'un autre peuple. Et oui, lorsque nous rejetons Dieu de notre vie, lorsque nous refusons de nous placer entre les mains de Dieu, alors c'est en d'autres mains que nous allons tomber. Et contrairement aux mains de Dieu, ces mains-là ne chercheront pas notre bien, mais au contraire, chercheront à dominer sur nous. Verset 2. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et là, dans cette grande misère, les Israélites crièrent à l'Éternel. Il a fallu que le peuple de Dieu soit dans une grande détresse et dans l'incapacité de s'en sortir tout seul pour qu'enfin il se tourne vers Dieu. N'est-ce pas ce que nous avons tendance à faire, nous aussi? Nous sommes parfois inconséquents avec Dieu. Nous faisons appel à lui dans les moments de crise de notre vie, mais nous l'ignorons le reste du temps. C'est face à un choix que Dieu nous place, vivre avec lui ou bien vivre sans lui. Et Dieu qui est bon veut nous aider pour que nous le choisissions et il nous montre que nous pouvons lui faire confiance. Verset 7. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitté la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je leur ai donné leur pays. Et je vous ai donné leur pays. Les Israélites font appel à Dieu comme si Dieu était indifférent à leur sort, comme si Dieu était absent. Mais c'est faux! Ce n'est pas Dieu qui est parti, c'est le peuple qui a tourné le dos à Dieu. Et Dieu commence par rappeler aux Israélites tout ce qu'il a fait pour son peuple. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. C'est Dieu qui a fait le premier pas en direction et en faveur de son peuple. Notre relation avec Dieu n'a pas pour origine ce que nous avons fait pour Dieu, mais au contraire, notre relation avec Dieu commence par ce que Dieu a fait pour nous. Dieu commence par nous prouver son amour, Dieu commence par nous prouver sa puissance, Dieu commence par nous prouver son existence, et Dieu commence par nous révéler qu'il est notre Dieu. Et c'est pour ces raisons, parce que Dieu a fait le premier pas, parce que Dieu nous montre que nous pouvons nous confier en lui, que nous pouvons justement nous confier en lui. C'est Dieu qui fait le premier pas, c'est Dieu qui vient nous chercher. Mais en retour, Dieu nous demande aussi de faire un pas dans sa direction et de le suivre, de lui faire confiance et de l'écouter. Sinon, nous allons au-devant de grands malheurs et de fortes déceptions. Et c'est ce qui est arrivé aux Israélites. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Voici l'origine de leur malheur. Ils n'ont pas écouté Dieu. Nous devons être conséquents avec notre foi. Nous ne pouvons pas d'un côté dire à Dieu « Aide-moi, viens à mon secours !» si jamais nous refusons de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Ne pas écouter Dieu, c'est dire à Dieu « Laisse-moi tranquille, je me débrouille très bien tout seul. » Parce que les Israélites n'ont pas voulu écouter Dieu, ils traversent maintenant des moments très difficiles. Mais heureusement pour eux et pour nous, si de notre côté nous n'avons pas été fidèles à Dieu, Dieu de son côté reste fidèle. Et Dieu entend les prières de ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Et Dieu va intervenir en faveur de son peuple. Verset 11. L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Pour la première fois, il est question de Gédéon, et c'est lui que nous allons maintenant suivre, parce que son histoire illustre que nous sommes peut-être petits, mais nous pouvons compter sur un grand Dieu. Gédéon est un homme qui vit dans la peur. Cela se voit au fait qu'il bat le blé dans un pressoir. Alors battre le blé, c'est séparer le grain de l'épi, et on fait cela sur un terrain dégagé, dans un endroit spécialement prévu à cet effet. Gédéon, lui, bat le blé dans un pressoir, dans un endroit fermé qui n'est pas du tout adapté à ce travail. Et il fait cela parce qu'il veut se cacher des redoutables Madianites. Et c'est dans cette situation que Dieu s'adresse à lui. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros. Alors, est-ce que vous pensez que Gédéon, la peur au ventre, caché dans ce pressoir, se voyait lui-même en vaillant héros ? Et pourtant, c'est comme cela que Dieu le voit. Dieu ne s'arrête pas aux apparences, mais Dieu regarde à notre cœur. Dieu ne limite pas son regard à ce que nous sommes maintenant, mais Dieu voit ce que nous pouvons devenir si nous avons confiance en lui. Le fait d'oser compter sur Dieu peut transformer notre vie. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et nous avons parfois de la difficulté à croire que Dieu est avec nous. Si Dieu était réellement avec nous, notre vie ne devrait-elle pas être plus facile ? C'est humain comme réaction, et c'est justement celle de Gédéon. Verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux? Ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Les difficultés que nous traversons peuvent nous amener à croire que Dieu nous a abandonnés. Nous aimerions que Dieu intervienne. Ah Seigneur, ce monde est vraiment trop injuste. Si vraiment tu ne nous avais pas abandonnés, si tu es réellement puissant, eh bien alors interviens. Nous aimerions, n'est-ce pas, que Dieu intervienne dans ce monde afin de rétablir la justice. Qui aimerait que Dieu intervienne dans ce monde? Les autres pensent que Dieu ne devrait pas intervenir dans ce monde? J'ai reposé ma question. Qui pense qu'il faudrait que Dieu intervienne dans ce monde pour rétablir la justice, l'ordre, la paix, l'amour? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est justement ce que Dieu fait. Dieu intervient dans ce monde. Mais j'ai aussi une autre nouvelle, et celle-ci peut nous faire peur. Souvent, Dieu intervient dans ce monde par le biais de ses serviteurs. C'est souvent en utilisant ses serviteurs que Dieu intervient dans le monde. Peut-être y a-t-il des situations ou des personnes auprès desquelles nous aimerions que Dieu intervienne. Ah Seigneur, qu'attends-tu pour intervenir? Et nous prions pour cela. C'est bien de prier pour que Dieu intervienne, mais posons-nous aussi la question, et si jamais le moyen par lequel Dieu voudrait intervenir, c'était moi? Moi, personnellement, avec mes faibles moyens, les faibles moyens dont je dispose. Mais cela peut sembler impossible, justement. Nous n'avons pas ces moyens. Et pourtant, c'est ce que Dieu a demandé à Gédéon, et c'est aussi ce que Dieu peut nous demander. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as. » et délivre Israël de l'oppression de Madian. Et parce que Dieu sait que cette mission semble humainement impossible à remplir, il précise tout de suite derrière, « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Lorsque nous entendons un appel de Dieu particulier, nous ne devrions jamais oublier qui est celui qui nous envoie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Parce que si jamais nous oublions que c'est Dieu qui nous envoie, si nous ne regardons qu'à nous-mêmes, eh bien nous arriverons à la conclusion que nous ne sommes pas à la hauteur. Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » En d'autres mots, « Seigneur, je ne suis pas de taille. » Envoie plutôt quelqu'un d'autre. Je suis frappé en lisant la Bible de constater que le Seigneur envoie en mission des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur, et en particulier lorsque ces missions sont des missions très importantes. Pour accomplir la grande mission de libérer son peuple de l'esclavage qu'il subissait en Égypte, Dieu a choisi d'envoyer Moïse. Mais Moïse ne se sentait pas du tout à la hauteur de cette mission. Et qu'a-t-il répondu à l'appel de Dieu? Exode 4, 13. Moïse dit à Dieu, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Pour accomplir la grande mission de fonder des églises et de leur apporter un enseignement solide, Dieu a choisi Paul et en fait le plus grand des apôtres. Mais Paul ne se sentait pas non plus à la hauteur d'une telle tâche, il s'en sentait même indigne. 1 Corinthiens 15, 9, c'est Paul qui parle. « En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Dieu envoie des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur, c'est vrai. Mais, et c'est ce mais qui change tout, mais Dieu accompagne ceux qu'il envoie en mission. Verset 16, l'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Lorsque Dieu nous envoie en mission, Dieu nous accompagne, et la présence de Dieu à nos côtés change tout. Nous avons à nos côtés le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque Dieu nous dit « Va avec la force que tu as », il ne veut pas que nous partions seuls avec nos propres forces. Dieu ne veut jamais que nous partions tout seuls. Ou plus exactement, Dieu ne veut jamais que nous partions sans lui. Lorsque Dieu nous dit « Va avec la force que tu as », il nous dit « Pars avec les maigres forces dont tu disposes et pour le reste, fais-moi confiance. N'oublie pas que c'est moi qui t'envoie et que je serai avec toi. » Nous nous sentons peut-être petits, mais nous pouvons compter sur un grand Dieu. Et même si nos ennemis semblent beaucoup plus nombreux et plus forts que nous, si Dieu est avec nous, alors, qui sera contre nous? Dieu dit à Gédéon, « Tu les battras comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Et ce n'est pas rien, parce que au verset 5 que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit que les ennemis de Gédéon étaient si nombreux qu'il était impossible de les compter. Mais avec Dieu à ses côtés, c'est comme si ces ennemis si nombreux ne se réduisaient qu'à un seul homme. Et Dieu dit à Gédéon, « C'est toi qui seras le plus fort. » Lorsque Dieu est à nos côtés, le rapport de force s'inverse et est toujours en notre faveur. Non pas parce que nous sommes devenus miraculeusement le plus fort, mais parce que c'est Dieu qui nous a envoyés et qu'alors cela signifie que Dieu se tient à nos côtés. Notre service pour Dieu est la chose la plus importante, ce n'est pas les forces dont nous disposons au départ. Ce qui compte, c'est que Dieu se tienne à nos côtés. Et malheureusement, parfois, nous oublions que lorsque Dieu nous envoie, Dieu se tient à nos côtés et que c'est lui qui agit. Et nous l'oublions surtout lorsque nous avons à notre disposition de gros moyens pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est un peu mon rêve, ça, disposer de gros moyens. Lorsque nous pouvons compter sur de gros moyens humains et de nombreux dons. Nous disposons aussi d'importantes ressources financières, d'une excellente organisation et d'une technologie dernier cri. C'est rassurant de disposer de tout cela, mais attention à une chose. Ne croyons pas que c'est grâce à ces moyens que nous allons réussir à accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Lorsque Dieu nous envoie en mission, ce n'est pas l'efficacité que Dieu recherche le plus. Si Dieu ne se préoccupait que de l'efficacité, il ne nous enverrait pas en mission. Dieu ferait les choses tout seul parce que Dieu les ferait bien mieux que nous. Lorsque Dieu nous dit « Va avec la force que tu as », il nous dit aussi « N'oublie pas que c'est moi qui t'envoie » et il nous dit aussi « Je serai avec toi ». Au travers de la mission qu'il nous confie, Dieu veut que nous réalisions à quel point il est un Dieu glorieux. Et que même si nous sommes petits, avec Dieu, nous pouvons faire de grandes choses parce que nous pouvons compter sur un grand Dieu. La mission que Dieu nous confie doit nous permettre de constater la fidélité de Dieu, pas de nous imaginer que nous sommes capables de faire les choses sans lui. Nous allons reprendre notre lecture un peu plus tard au chapitre 7 et au verset 2. Dans le but d'accomplir sa mission, Gédéon a fait appel aux hommes de sa tribu et des tribus voisines. Et tenez-vous bien, 32 000 hommes répondent présents. Ils sont venus combattre les Madianites aux côtés de Gédéon. Waouh, formidable! Gédéon dispose enfin d'une armée. Mais, juge 7, verset 2, Mais l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. Dieu envoie Gédéon combattre les Madianites, Dieu dispose enfin d'une armée de combattants, mais Dieu trouve que cette armée est trop nombreuse, trop importante, pour que les hommes voient en leur victoire, en la victoire que Dieu va accorder, trop important, pour que les hommes ne se disent pas « c'est grâce à nous, à nos propres forces, que nous avons remporté la victoire ». Dieu ne veut pas que la victoire qu'il va accorder à son peuple éloigne son peuple de lui, et que les combattants se glorifient d'avoir remporté la victoire. Dieu se sépare donc de ceux qui ont le plus peur. Alors, on pourrait s'attendre que Dieu, au contraire, se sépare des plus courageux. Comme cela, la victoire que Dieu va accorder serait encore plus éclatante. Mais au contraire, Dieu garde les plus courageux. Parce que même si c'est Dieu qui donne la victoire, du courage, il va en falloir à ses hommes pour oser s'engager dans ce combat, pour oser compter sur Dieu. Gédéon perd donc les deux tiers de son armée. Et ce n'est pas suffisant pour Dieu. Verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai un tri parmi eux. Celui à propos duquel je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je délivrerai Madian, et que je te délivrerai, pardon, de Madian. Que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. » Alors, on a cherché à expliquer en quoi ceux qui buvaient l'eau en la portant jusqu'à leur bouche étaient plus aptes au combat que ceux qui se penchaient jusqu'à l'eau pour la boire. Alors, porter l'eau à sa bouche sans montrer une attitude plus combattante. Parce que pendant que vous faites cela, vous êtes encore vigilant. Vous pouvez regarder à droite et à gauche, alors que quand vous êtes couché sur l'eau, vous ne voyez plus ce qui se passe. C'est peut-être la bonne explication. Mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et que ce qui est écrit, c'est que ce n'est pas aux hommes de choisir ceux qui accompliront la mission. Ce n'est pas à nous de choisir. Mais c'est Dieu qui choisit ceux qu'il envoie. Gédéon, lui, aurait probablement choisi d'autres critères, hein, les plus forts, les meilleurs archers, les plus rapides. Mais Dieu dit, « Je ferai pour toi un tri parmi eux. » C'est Dieu lui-même qui nous a choisis, nous personnellement, pour accomplir telle ou telle mission. Et pour l'accomplissement de la tâche qu'il nous a confiée, Dieu lui-même peut volontairement limiter les ressources et les moyens qui seront à notre disposition. Des fois, on prie, « Ah, Seigneur, accorde-nous ceci ou cela pour que nous puissions aller de l'avant. » Dieu ne répond pas. Mais Dieu peut volontairement limiter les ressources dont nous disposerons. De notre côté, nous aimerions disposer de plus de moyens humains, de plus d'argent, de plus de dons, de plus de forces. Mais de son côté, Dieu limite nos moyens. Non pas parce que Dieu veut nous empêcher de réussir, mais parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et Dieu veut que nous comprenions que même si nous sommes petits, nous pouvons compter sur lui. Lorsque Dieu nous dit « Va avec la force que tu as, quelles que soient nos maigres forces, nous pouvons lui faire confiance. » C'est Dieu qui nous envoie, et lorsqu'il nous envoie, il se tient également à nos côtés. Dieu a limité les forces de Gédéon. Verset 8, « On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. » Alors, entre parenthèses, hein, si Dieu ne nous révélait pas que c'était lui-même qui avait retenu seulement ces 300 hommes, nous pourrions penser, selon des critères humains, que Gédéon, est un très mauvais leader. Pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, il avait au départ 32 000 hommes. Et il n'en reste maintenant plus que 300. Gédéon a perdu 99% de son effectif de départ. Est-ce que vous imaginez ce qu'on penserait d'un chef qui perd 99% de son effectif avant même d'aller au combat? Mais pourtant, c'est Dieu lui-même qui n'a retenu que ce petit nombre. Et c'est avec ce petit nombre d'hommes que Dieu a choisi de manifester sa gloire. Nous allons directement au verset 16. Alors, Gédéon et ses 300 hommes sont sur une colline qui domine l'immense camp de leurs ennemis. Immense, car ils sont extrêmement nombreux et puissants. Un peu plus loin, au chapitre 8, au verset 10, il est précisé qu'il y avait là environ 135 000 hommes. Le combat est franchement inégal. C'est un combat à 1 contre 450. Imaginez le courage et la confiance en Dieu qu'il a fallu à ces hommes pour oser aller au combat. Alors ça ne signifie pas pour autant qu'ils n'avaient pas peur, mais cela signifie qu'ils avaient confiance en Dieu. Le véritable courage, selon Dieu, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'oser compter sur Dieu. Dieu a promis de leur donner la victoire, c'est vrai. Mais quel courage pour ces hommes d'oser s'appuyer sur leur Dieu. Parce que s'appuyer sur Dieu, dans ce moment-là, est la seule option qu'il leur reste pour combattre cet ennemi bien plus puissant qu'eux. Verset 16, Gédéon répartit les 300 hommes en trois groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, « Pour l'Éternel et pour Gédéon !» Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner. Ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» tout en restant chacun à sa place autour du camp. Nous voyons ici la confiance qui règne entre Gédéon et ses hommes. Alors qu'ils sont engagés dans un combat, et l'issue de ce combat, c'est la vie ou la mort. Il y a 1 contre 450, ça pèse pas lourd les chances de leur côté. Et pourtant, Gédéon leur demande de faire quelque chose, et pas n'importe quoi, quelque chose qui, militairement parlant, est stupide. Au lieu d'avancer en groupe et de concentrer leurs maigres forces, ils se dispersent, ils répartissent leurs forces. Dans un combat de nuit, on tire avantage de l'obscurité pour se cacher. On s'habille en sombre, on se couvre de cendres, afin de ne pas être vu. Eux, ils font exactement l'inverse. Ils tiennent des torches à la main. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous éclairer avec une torche. Alors, moi, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Mais il n'y a que dans les films où s'éclairer avec une torche, vous voyez quelque chose. Parce qu'en réalité, vous voyez vaguement à 2 ou 3 mètres, mais pas au-delà. Vos pupilles, de toute façon, s'adaptent à cette source lumineuse très puissante. Et ce qui est à 10-15 mètres reste pour vous dans le noir complet. C'est tout juste si vous pouvez discerner l'endroit où vous avez les marchés. Mais par contre, lorsque vous tenez une torche, là, vous êtes visible à des centaines de mètres. Vous êtes parfaitement visible, même pour tous ceux qui sont invisibles à vos yeux. En tenant cette torche, non seulement les hommes de Josué ne distinguent plus leurs ennemis, mais en plus, ils offrent une cible parfaite et facile pour leurs archers. Autre chose stupide, si jamais le camp ennemi est endormi, ben vous allez vous approcher le plus silencieusement possible, afin d'en tuer le plus possible pendant leur sommeil. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Des fois qu'il y en a qui dorment, ils sonnent du cor afin que tout le camp, tous se réveillent. Quelle magnifique confiance ont eu ces hommes de croire que Dieu se tenait réellement à leur côté. Leur force, leur protection ne pouvait à cet instant se trouver qu'en Dieu, parce qu'eux-mêmes avaient renoncé à toute protection. Et en plus, si d'une main vous tenez une torche, de l'autre main vous tenez une trompette, cela signifie que vous ne tenez à la main ni bouclier, ni épée, ni arc, quoi que ce soit. Vous êtes totalement vulnérable à vos ennemis. Pour ces hommes, la victoire ne peut venir que de Dieu. Du Dieu qui, en les envoyant en mission, leur a promis « Je serai avec vous, vous vaincrez ». Et Dieu tient sa promesse. Suite du verset 21. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Ces 135 000 hommes, cette troupe armée de guerriers qui allait de pillage en pillage, la guerre était leur métier, dans la panique de la nuit, se battent les uns contre les autres. Dieu va faire en sorte que cette immense armée d'ennemis se détruise elle-même. C'est Dieu qui donne la victoire. Et cette victoire ne tient pas au fait que ces hommes étaient plus forts, mais la victoire vient du fait que Dieu s'est tenu à leur côté et que Dieu est intervenu en leur faveur. Alors cette victoire va encourager l'ensemble du peuple d'Israël à aller au combat et pour poursuivre les quelques survivants. Et la victoire militaire d'Israël est complète. Mais probablement que dans ces hommes qui ont poursuivi les quelques fuyards, eux vont s'imaginer que la victoire, ils l'ont obtenue par leur propre force. Mais pour ces 300 hommes, pour Gédéon et ses 300 hommes, eux ont eu un autre regard sur Dieu. Et la connaissance qu'ils ont maintenant de Dieu est toute différente. Devant ces 300 hommes, Dieu a manifesté sa gloire. Et ces hommes ont eu le privilège de voir Dieu agir. Ces hommes ont aussi eu l'immense joie de voir leur confiance et leur fidélité récompensée. Nous nous sentons peut-être bien faibles pour accomplir la volonté de Dieu. À nos yeux, notre église n'est peut-être pas assez grande, hein. Regardez, il y a même des places de libre. À nos yeux, nos moyens ne sont pas assez importants. Mais ce qui est important, ce n'est pas que nous nous trouvions suffisamment forts. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de Dieu pour savoir ce vers qui ou ce vers quoi Dieu nous envoie. Parce que si jamais Dieu nous envoie, alors Dieu se tiendra à nos côtés. Et Dieu nous dit, va avec la force que tu as. La réussite de la mission que je t'ai confiée ne dépend pas de tes propres forces, mais de ma présence à tes côtés. Ayons confiance en Dieu. Nous sommes peut-être petits, mais nous pouvons compter sur un grand Dieu. Je vous invite à quelques moments de réflexion, de prière. Seigneur Dieu vivant, la création tout entière manifeste ta puissance, ta grandeur, ta gloire. Nous le savons, Seigneur, mais aide-nous d'être capables de le vivre, même dans ce que tu nous confies. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Lorsque tu nous demandes quelque chose, lorsque tu nous envoies, jamais tu veux que nous ne partions seuls. Mais toi, Seigneur, tu nous promets de nous accompagner. Nous, Seigneur, d'avoir ce privilège de voir ta gloire se manifester, d'aller de l'avant, même si nous avons peur, même si nous sentons petits, parce que toi, tu es à nos côtés. Oui, quel privilège, Seigneur, nous avons de t'avoir pour Dieu. Qu'en tant qu'individu, qu'en tant qu'Église, nous puissions, Seigneur, oser aller de l'avant, compter sur toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois aussi où nous allons de l'avant en comptant sur nos propres forces. Et nous finissons par oublier que c'est à toi que nous devons la victoire. Ouvre nos yeux, Seigneur. Et merci parce que, même si nous ne voyons pas tout ce que tu fais, toi tu es là. Ouvre nos yeux. Illumine, Seigneur, notre cœur, pour que nous puissions non seulement nous réjouir de t'avoir pour Dieu, être fidèles, aller de l'avant, mais que nous puissions aussi accepter la mission que tu nous confies, personnellement ou en tant qu'Église. Et que nous puissions, Seigneur, manifester ta gloire. Et merci, Seigneur, parce que ta gloire nous encourage. Tu es un Dieu qui veut nous encourager. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.